Mesdames, Messieurs, Antoine Compagnon et moi-même, nous sommes très heureux d'accueillir Jasper Svenbro pour ce mois de cours sur le thème, vous voyez au tableau, Hamoten, contingence et cheminement dans la création poétique. Je dois excuser pour trois séances Antoine Compagnon qui a son cours peu après et qui est absolument indisponible à cette heure-ci. Mais il viendra la dernière séance. Jasper Svenbro n'est pas un inconnu à Paris et en France. Il a passé son enfance et ses études en Suède, à Lund, et après un séjour à Yale auprès d'Eric Havelock, il a aussi séjourné à Rome, à l'Institut suédois, entre 1975 et 1977, où d'ailleurs nous nous sommes rencontrés. Après son doctorat soutenu à Lund et un séjour romain, il est venu à Paris, attiré par l'anthropologie historique telle qu'elle se pratiquait au Centre de recherche comparé sous la houlette de Jean-Pierre Vernant. C'est avec lui, Marcel Détienne et Pierre Vidal-Naquet, qu'il a travaillé au cours des années suivantes. En 1982, il a pu entrer au CNRS, où il a fait tout le reste de sa carrière scientifique jusqu'à sa retraite. Il obtint d'ailleurs la médaille de bronze du CNRS en 1989. Pendant toute cette période, il a poursuivi ses recherches sur la poétique grecque, a beaucoup publié, a fait soutenir un certain nombre de thèses et m'a fait l'honneur d'animer avec moi un séminaire comparatif à l'École pratique des hautes études de 1982-3 à mon départ de cette institution. Et le dernier acte de cette collaboration s'est même fait ici au collège en 2002-2003. Enfin, en 2006, il a été élu à l'Académie suédoise qui accapare maintenant toutes ses activités. Voilà pour la carrière scientifique. Mais il y a eu, dès 1966, une deuxième carrière poétique qui s'est traduite par une série de livres, elle aussi, et a été couronnée par une avalanche de prix. Celui qui était qualifié un temps lointain de « funniest poet in Sweden » est devenu avec le temps un des poètes les plus connus du pays scandinave, en pays scandinave et au-delà. Sa bibliographie, vous vous en doutez, est double. Du côté scientifique, en me limitant au seul livre, il y a d'abord sa thèse, La parole et le marbre, aux origines de la poétique grecque, soutenue et publiée en 1976. C'est un livre publié en français, écrit et publié en français, dans un style bourdelaisien, et Jasper a appris le français en lisant Pierre Bourdieu, ce qui est une école rude, mais très efficace. Et je peux vous raconter une anecdote sur sa thèse. Quand vous allez sur les rayons, vous irez sur les rayons de la Sorbonne dans le département des thèses étrangères, il y a un petit mur de thèses suédoises, Lund, Stockholm, qui ont toutes des thèses renéotées avec un dos bleu-azur. Et puis, dans cette belle ordonnance scandinave, il y a une espèce de chose hirsute au milieu, toute noire, toute sale. Vous avez compris, c'est la seule qui était lue. Et c'était un des livres les plus lus à l'époque. Et par une bizarrerie, elle n'a jamais été publiée réellement en français. Elle existe dans une édition italienne, mais toujours pas en français. On va essayer d'y remédier. En 1988, il a publié Phrasicleia, Anthropologie de la lecture en Grèce ancienne, traduit en italien, allemand, américain, grec, roumain, etc. En 1994, Le métier de Zeus, mythe du tissage en Grèce et à Rome, qui était sorti auparavant en anglais à Harvard. 1999, Sentier de fourmis, figure de l'écrit de la lecture en Grèce ancienne, qui est paru en suédois, en allemand, et une traduction française est en préparation, je crois. Les recueils de poésie, quant à eux, sont tous en suédois, traduits selon le cas en allemand, italien ou anglais. J'en cite quelques-uns. 1979, Éléments pour une cosmologie. 1991, je saute, Hermès Boukolos. 1993, Apollon Samien. 2001, Mon père le pasteur, qui a aussi été traduit en allemand. Le ciel et autres débuts en 2005. Et puis tout récemment, roman de guerre qui vient aussi de paraître en italien déjà l'année dernière. Enfin, il sort maintenant. Donc vous le constatez, Jasper Svendrå a eu une double vie, mais deux vies qui se rejoignent. C'est sans doute là qu'il y a le cheminement et la contingence par rapport à la création poétique. Pendant ses conférences, il va nous dire quel est le lien entre ces deux vies. Et je vais tout de suite lui donner la parole.
Merci. Votre Excellence, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un honneur pour moi de répondre présent à l'invitation de l'Assemblée des professeurs du Collège de France, particulièrement des professeurs John Scheid et Antoine Compagnon. Dans le cadre, faut-il préciser, d'une réflexion sur la création artistique, mobilisant non seulement des littéraires comme moi-même, philologue de formation et anthropologue par choix, et par anthropologue, j'entends quelqu'un travaillant dans la perspective de l'anthropologie historique, professé ici même par mon maître Jean-Pierre Vernon. On comprendra donc que c'est avec une certaine hésitation que j'ai accepté de consacrer mes quatre conférences à la création poétique. Si j'ai finalement accepté d'en parler, c'est qu'il y a pour cela une justification que je voudrais rendre explicite avant d'entamer ma première conférence. Pendant 15 ans, à l'École pratique des hautes études, 5e section, de l'autre côté de la rue Saint-Jacques, donc, j'ai animé avec le professeur Scheid un séminaire qui portait l'intitulé « Religion de Rome », mais qui en réalité est devenu le lieu des recherches comparées, contrastives et parallèles sur la pensée religieuse et les pratiques religieuses à Rome et en Grèce. Philologue de la religion romaine et grecque, nous le sommes peut-être devenus en nous inspirant de l'exemple de Hermann Usener, historien de la religion connu en France grâce à Marcel Mauss, Louis Gernet et Vernon, et plus récemment grâce à la traduction d'un livre d'Ernst Cassirer, Langage et mythe, paru en 1973. Pendant ces séminaires de philologie de la religion, consacrés entre autres aux mythes, aux calendriers, au polythéisme, au partage, il était sans doute évident au professeur Scheid, sinon aux étudiants, que les sujets par moi abordés avaient souvent un versant susceptible de me fournir des sujets et des thèmes pour les poèmes que j'écrivais pendant ces années et que je faisais publier en suédois dans ma langue maternelle, comme derrière un écran. La Grèce d'Homère à Platon était effectivement le terreau de mes poèmes, mais je tiens à le souligner, les problèmes rencontrés dans l'écriture poétique m'aider inversement à bien poser les questions dans mon travail de philologue de la religion grecque. C'est dans le souvenir de ces séminaires, je pense, que le professeur Scheid a eu l'idée de me faire parler ici, en me suggérant de jouer carte sur table, ou disons plutôt de montrer la face cachée de la Lune, et qui, ainsi qu'on s'en rendra compte, m'obligera à prendre des risques et de passer outre certaines limites imposées par le discours scientifique. J'ai atteint l'âge où je me sens finalement prêt à les assumer, ces risques. Je passe maintenant à ma première conférence. Le fait que j'ai mis un adverbe à l'affiche, à savoir « hamoten », comme titre des quatre conférences qui m'ont été confiées ici, exige, me semble-t-il, une explication liminaire, même toute une exégèse. Ceux qui gardent un souvenir de l'Odyssée se rappellent peut-être que ce mot apparaît au début du premier chant, au vers 10, précédé de « tone ». Dans l'ensemble de ces thèmes-là, l'adverbe « hamoten » signifie en effet, dans cette invocation à la muse, dans l'Odyssée, « d'un point quelconque ». Avant que le poète, guidé par la muse, ne se lance sur le chemin du récit. Notre adverbe sert donc ici à rappeler, ainsi qu'on le comprendra, le lien entre les thèmes contingence et cheminement. Pour rendre les choses plus claires, lisons le début de l'Odyssée dans la traduction de Philippe Jacotet, les vers 1 à 9. Ô muse, conte-moi l'aventure de l'inventif, celui qui pilla Troie, qui pendant des années erra, voyant beaucoup de villes, découvrant beaucoup d'usages, souffrant beaucoup d'angoisse dans son âme sur la mer, pour défendre la vie et le retour de ses marins, sans en pouvoir pourtant sauver un seul, quoi qu'il en eût. Par leur propre fureur, ils furent perdus en effet, ces enfants qui touchèrent au troupeau du Dieu d'en haut, le soleil qui leur prit le bonheur du retour. Ton hamoten, d'un point quelconque, dans cet inventaire de thèmes, déesse, fille de Zeus, faisant le récit à nous aussi. Telle serait, à mon avis, la traduction du vers 10, si l'on ne gomme pas le détail de l'original grec. À la manière des traducteurs français, Bérard aussi bien que Jacotet, d'ailleurs. Autrement dit, au vers 10, Homère demande à la muse de le guider à travers la tradition sur le retour d'Ulysse, évoqué dans les vers 1 à 9. Comme dans l'ébauche d'une table des matières, les éléments de cette tradition sont présentés à l'auditoire et à la muse. L'intervention de celle-ci consistera à choisir le point de départ de toute l'Odyssée, à savoir le récit de l'Assemblée des dieux qui va décider du sort d'Ulysse. On pourrait effectivement imaginer d'autres points de départ pour le retour d'Ulysse. À ce stade, la page n'est peut-être pas blanche, comme nous disons, mais le champ est encore libre. Si la aide dépend pour la composition de son champ de l'assistance de la muse, cela veut dire que nous sommes en face de quelque chose qu'il faut qualifier de théologie de l'action ou de théologie de l'acte, voire de théologie de l'action poétique. La muse interviendra à partir d'un point quelconque, et ce n'est donc pas l'aide lui-même qui choisit ce point. Devant la tradition sur le retour d'Ulysse, dont il fait le résumé, l'aide ne sait pas encore comment il va procéder. Ce qui va suivre pourra être autrement qu'il ne sera. Aucune nécessité ne va diriger le déroulement de l'histoire. On est donc en pleine contingence. À ce stade, la composition de l'Odyssée est encore une affaire ouverte. Arrêtons-nous ici sur la thèse d'Iomède le Prudent de Teodoro Assunção, soutenue en 2000 à l'École des hautes études. considérant que la contingence dans l'Iliade est le domaine propre à l'intervention divine. Diomède le Prudent est le héros homérique dont le nom signifie « celui qui médite ses plans à partir de Zeus » et qui exerce sa prudence de manière à pouvoir devenir le héros emblématique de la contingence au sens aristotélicien du terme. Et la référence ici, c'est l'extraordinaire livre de Pierre Houbinck, « La prudence chez Aristote », dont on retiendra en particulier les pages 64 et suivants. D'une certaine façon, Diomède, c'est un anti-Achille. La prudence ou la phronesis s'exerce de façon caractéristique dans le domaine de la contingence, à savoir là où rien n'est donné d'avance. Domaine qui, par conséquent, dit Asuncao, est celui de l'intervention divine. Admettons avec Asuncao que dans l'Iliade, aucune action héroïque d'envergure ne peut réussir sans l'intervention des dieux. Pour lui, cela ne signifie pas, ainsi qu'on aurait pu le croire, que la contingence est absente de l'Iliade, mais qu'elle s'est plutôt déplacée vers la sphère des dieux. Et c'est ainsi qu'il pose la question de savoir comment ce qui est indéterminé et se cristallise et prend la forme d'un acte. Et je le cite. « L'action divine, écrit-il, est donc perçue comme ce qui définit la figure que prend instantanément le champ de l'indéterminé et de l'imprévisible. » Fin de la citation. Ce qui signifie que le contingent dans l'Iliade est le domaine propre à l'intervention divine et que l'acte héroïque qui réussit, mais qui aurait pu être autrement qu'il n'est, est comme la preuve a posteriori de la présence divine dans cet acte. Chaque acte réussi témoigne ainsi de la présence du divin dans son accomplissement. Or, dans l'Iliade, comme on le sait, Zeus prédit les grandes lignes de l'action. Et sa prédiction ressemble parfois à une table des matières élaborée par Laède. Y a-t-il vraiment, dans ces conditions, un domaine de la contingence dans l'Iliade? L'action n'est-elle pas, au contraire, soumise à la nécessité d'un plan préétabli? Asuncao montre que le Dieu suprême laisse à l'action des marges assez importantes pour qu'on puisse affirmer qu'il existe effectivement un domaine du contingent dans l'Iliade. Tout n'est pas fixé d'avance. Une fois accompli, le déroulement de l'action contient des choses qui auraient pu être autrement qu'elles ne sont, sans pour autant contredire le plan de Zeus. Plus loin, Asuncao ajoute que le pouvoir de Zeus sur les événements se confond parfois avec celui du poète sur le scénario. À la suite de Asuncao, je me suis demandé si l'on ne pourrait pas envisager l'activité de Laède qui improvise dans le cadre général que lui impose la tradition, comme une activité non seulement analogue à celle du Dieu suprême, mais encore comme une activité placée sous le signe précisément de la contingence. Car à l'intérieur du cadre général, qu'il connaît aussi bien que Zeus et qu'il ne peut pas changer, Laède est lui aussi soumis à la contingence. Son élaboration du thème pour laquelle il demande l'assistance de la muse obéirait ainsi à la même logique que le déroulement de l'action dans le poème. Autrement dit, la forme que telle ou telle version orale assume après l'invocation de la muse aurait été perçue comme le résultat d'une intervention divine qui fixe l'indéterminé ou le contingent en poème définitif, sur lequel repose désormais, pour citer Pindare, quelque chose de majestueux, semnonti. La réussite devient ainsi la preuve a posteriori que le poète a été exaucé dans sa prière de la muse, à la muse. Aux yeux des anciens Grecs, l'inspiration des muses est ce qui, rétrospectivement, explique la réussite extraordinaire de l'auteur mortel des poèmes homériques, qui, au moment où il doit se lancer d'un point quelconque dans les récits traditionnels sur Achille ou Ulysse, demande l'assistance de la divinité afin de trouver le meilleur chemin. Prière qu'il faut sans doute considérer comme exaucée. Sur fond de cette théologie de l'action poétique, on essaiera maintenant d'explorer la condition du poète moderne devant la page blanche. Je vous invite donc à descendre des hauteurs olympiennes sur Terre et lire quelques poèmes français de la première moitié du XXe siècle, mettant en scène, chacun de sa manière, les hasards du chemin et la création poétique. D'abord, le rappel d'une autre thèse, soutenue à Lyon en 1994 par Phoebe Giannisi et publiée 12 ans plus tard sous le titre « Récit des voix ». Chant et cheminement dans la Grèce archaïque. Rappel qui fera le pont, en quelque sorte, entre le cheminement homérique et un cheminement résolument moderne qu'on découvrira dans quelques instants. Madame Giannisi met l'Odyssée au centre de son entreprise pour la bonne raison que la figure du chemin domine ce poème. Dès son point de départ, choisi par la muse, on l'a vu, n'est-ce pas, jusqu'au retour du héros, et, ainsi qu'on s'en souvient, ce n'est que le point de départ d'une nouvelle pérégrination. À l'analogie entre poème et chemin, explorée dans le livre de Phoebe Giannisi, j'étais en quelque sorte préparé, voire sensibilisé, par ma propre lecture d'un poème de Guillaume Apollinaire, que j'ai essayé de traduire en suédois vers la fin des années 1960. Le poème en question, et ce sera le premier de mes poèmes français de la première moitié du XXe siècle, s'intitule « Le musicien de Saint-Méry ». J'avais rencontré quelques difficultés quand j'essayais de rendre ce magnifique poème dans ma langue maternelle. Pour me familiariser avec lui, j'ai profité d'un passage à Paris au mois de septembre 1967 pour explorer le quartier Beaubourg, qui fournit le cadre du poème d'Apollinaire, racontant la promenade labyrinthique d'un flûtiste aveugle du moment où celui-ci quitte le boulevard Sébastopol et entre dans la petite rue Aubry-le-Boucher pour tourner à gauche et remonter la rue Saint-Martin vers la rue Simon-le-Franc, où se trouvait une fontaine près de laquelle notre joueur de flûte s'arrête pour boire. Aujourd'hui, il n'y a plus de fontaine à cet endroit. Et l'ancienne rue Simon-le-Franc traverse les fondations du centre Beaubourg pour réapparaître à côté du magasin Apple, IC, n'est-ce pas, de l'autre côté de la rue du Renard. à l'endroit où se trouvait l'ancienne fontaine, il y a, par une espèce de fidélité aux canalisations anciennes, des toilettes publiques. Et la fontaine de notre flûtiste, à savoir la fontaine Maubuée, mentionnée par François Villon, a été démontée en 1937 et déplacée légèrement à l'ouest, où elle est casée dans le coin formé par la rue de Venise et la rue Saint-Martin. L'eau ne coule plus dans cette fontaine réinstallée. Lors de ma visite en 1967, la fontaine avait déjà cessé de fonctionner depuis 30 ans, mais le plateau Beaubourg gardait plus d'affinité avec le paysage urbain propre au poème d'Apollinaire qu'avec le quartier Beaubourg d'aujourd'hui. De la fontaine, le flûtiste retourne sur ses pas et descend la rue Saint-Martin en passant devant l'entrée principale de l'église Saint-Merry, suivi de tout un troupeau de femmes langoureuses, pour tourner à gauche et entrer dans la longue rue de la Verrerie, marquée en ces jours de mai 1913 par la grève des boulangers. Je vous renvoie à un article écrit par Marc Poupon, publié en 1971. Il y avait de très longues files d'attente devant les deux boulangeries ouvertes sur la rue de la Verrerie. Et le cortège des femmes, long comme un jour sans pain, semble effectivement faire référence à ce fait. Mais les femmes nommées dans le poème d'Apollinaire et qui vont finir par disparaître sans laisser de traces dans un hôtel particulier situé plus loin dans la même rue, sont vraisemblablement des prostituées dont la présence a pendant longtemps caractérisé le quartier. Ce qui nous laisse avec un remake du joueur du flûte d'Hamelin, légende allemande bien connue, figurant parmi les contes des frères Grimm. À la disparition des femmes dans la cour de l'hôtel particulier à la rue de la Verrerie correspond la disparition des enfants dans la légende allemande, menée en dehors de la ville par le flûtiste à une grotte dont ils ne ressortiront pas. Il n'est pas ici lieu d'approfondir l'interprétation de cette reprise. En revanche, que faut-il dire de ce poème qui, par son écriture linéaire, reprenant un parcours à travers une topographie urbaine, devient un chemin suivi par le lecteur? Que faut-il dire de ce parcours aléatoire qui, si l'on le suit, est un véritable poème jalonné de noms, de souvenirs historiques, d'objets, de démons, d'anges, de figures historiques, de cloches d'église, de placettes, de façades dignes d'un scénographe hors pair. Libre à chacun de le refaire et de s'approprier ce parcours parisien, même si le quartier des Halles et le plateau Beaubourg sont aujourd'hui très différents de ce qu'ils étaient il y a 100 ans, le 21 mai 1913. Le poème est un parcours, un itinéraire, mais ainsi que le souligne Madame Giannisi dans son étude sur la poésie grecque archaïque, ce parcours devient à son tour un poème, et cela d'autant plus si l'on admet que le poème assume la forme musicale de l'itinéraire emprunté par le flûtiste. Dans la perspective qui est la mienne ici, il faut sans doute bien souligner une strophe au début du poème. Je ne chante pas ce monde ni les autres astres. Je chante toutes les possibilités de moi-même hors de ce monde et des astres. Je chante la joie d'errer et le plaisir d'en mourir. En plaçant de cette manière le poème sur le flûtiste sous le signe de l'errance, voire de la joie d'errer. Apollinaire se place très certainement du côté de la contingence. Comme s'il était sûr de tirer profit du hasard en suivant un parcours urbain devenu intérieur, mental, imaginaire, si nous prenons au sérieux ce qu'il est dit dans le poème. D'une quelconque théologie de l'acte poétique, il n'y a pas trace, il me semble. Pourrait-on dire que la place de la muse s'y dessine en creux? En acceptant la joie d'errer comme principe de son poème, et ici Ernst Cassirer aurait pu la qualifier d'Augenblicksgöttin, c'est-à-dire divinité de l'instant, à la suite de Hermann Usener. Le poète est en fait prêt à se laisser entraîner par le mystérieux flûtiste qui, lui, n'est autre qu'un passeur des morts, une espèce de Hermès, chargé ici de conduire non pas les prétendants défunts de Pénélope, comme au chant final de l'Odyssée, mais le troupeau de femmes langoureuses vers leur disparition. Flûtiste qui surgit à l'improviste et peut-être inventé par le poète qui se met à le suivre, ce qui d'une certaine manière se réduit au fait qu'Apollinaire, par joie d'errer, suit sa propre impulsion. Car que signifie le fait que le flûtiste aveugle joue un air dont Apollinaire se dit être l'inventeur? Cette affirmation doit être mise en rapport avec les possibilités de moi-même hors de ce monde. Le flûtiste est un être potentiel propre à l'imagination du poète. Ainsi, dans ce poème itinéraire, nous avons retrouvé la contingence sous la forme d'une errance aléatoire nommée « joie d'errer », incarnée par le flûtiste aveugle, passeur des morts, à travers une topographie urbaine précise. Enfoui dans le texte, un peu comme l'itinéraire enfoui dans les questions romaines de Plutarque, et que John Scheid et moi-même, nous avons refait livre en main, il y a longtemps déjà, sur le forum romain. Le poète s'est lancé sur cette piste musicale un jour de mai 1913, et son poème en est le compte-rendu linéaire, invitant le lecteur à refaire le chemin et à créer le poème de nouveau. Puisque nous sommes dans le quartier Beaubourg, je voudrais attirer l'attention sur le fait que Robert Desnos habitait au 11 rue Saint-Martin et avait 12 ans lorsque le musicien d'Apollinaire, imaginaire ou réel, peu importe quel statut nous lui attribuons, entreprit sa promenade du boulevard Sébastopol jusqu'à la rue de la Verrerie. Le poète du plateau Beaubourg, c'est, me semble-t-il, Desnos plutôt qu'Apollinaire. Et justement, passons maintenant à un poème de Desnos, tiré du recueil À la Mystérieuse, recueil de poèmes de 1926, dont Antonin Artaud a vite reconnu la valeur exceptionnelle, et que j'ai lu il y a longtemps dans la traduction suédoise du grand poète Gunnar Ekelöf. Je cite le passage de « Si tu savais » qui me semble très pertinent, et on verra plus tard à quel point, je crois, pour mes propos. « Loin de moi, un calme troupeau de bœufs se trompe de chemin, s'arrête obstinément au bord d'un profond précipice. Loin de moi, ô cruel, loin de moi, une étoile filante choit dans la bouteille nocturne du poète. Il met vivement le bouchon et dès lors il guette l'étoile enclose dans le verre. Il guette les constellations qui naissent sur les parois. Loin de moi, tu es loin de moi, si tu savais. Il y avait un temps où le profond précipice est devenu pour moi le trou des Halles. On y reviendra. Regardons d'abord la mise en scène de la création poétique par Desnos. Le poète capte, plutôt qu'une étincelle, une étoile filante dans sa bouteille nocturne. Il met le bouchon et devient le spectateur d'une création de constellations. C'est là une idée qui n'est pas étrangère au vers déjà cité d'Apollinaire. Je chante toutes les possibilités de moi-même hors de ce monde et des astres. Mais l'idée du poète spectateur de sa propre création poétique ou simplement de sa propre pensée remonte plutôt à la lettre du voyant de Rimbaud. Et je cite, « Cela m'est évident. J'assiste à l'éclosion de ma pensée. Je la regarde, je l'écoute. » Ce n'est pas, je crois, que Desnos se souvient ici de Rimbaud, mais plutôt que quelque chose de fondamental dans le rapport du poète à l'écrit est arrivé. Un véritable séisme, car « je » est un autre. Et qu'on peut repérer déjà dans le poème latin « Ver erat » de Rimbaud, devenu le spectateur du paysage lyrique qu'il a lui-même imaginé. « Spectacula contemplabar », lisons-nous, en effet, ainsi que Scheid et moi-même, nous l'avons souligné dans un article sur Rimbaud. Autrement dit, la lettre du voyant est préparée de ce point de vue par l'exercice scolaire du collégien Rimbaud, âgé de 10 ans. La création poétique est un événement en quelque sorte naturel et aléatoire sur lequel le poète n'a pas de contrôle, mais dont il est le spectateur rapporteur. Dans le poème latin de Rimbaud, Apollon est bien présent pour laisser sa place vide dans la lettre du voyant. Chez Desnos, la place de la muse est également vide, laissée en creux, si l'on veut. Le rôle de la divinité est assuré par un événement cosmique, naturel, astronomique, à l'intérieur de la bouteille nocturne du poète, événement sur lequel le poète n'a pas de contrôle. Il subit la contingence de la création en manifestant une foi solide dans le succès d'une telle attitude qui, en d'autres termes, ne serait autre qu'une soumission volontaire, voire joyeuse, au hasard de la création. Desnos se trouve par là dans une position décidément anti-malarméenne, puisque Mallarmé, à partir de la crise subie à Tournon de 1863 à 64, se refuse, par souci de perfection, à écrire au gré du hasard. En témoigne, par exemple, cette lettre à Henri Casalis. Et je cite premier volume Pléiade, page 654. Henri, qu'il y a loin de cette théorie de composition littéraire, c'est-à-dire celle de Mallarmé lui-même. Henri, qu'il y a loin de cette théorie de composition littéraire à la façon dont notre glorieux Emmanuel prend une poignée d'étoiles dans la Voie lactée pour les semer sur le papier et les laisser se former au hasard en constellations imprévues. Et comme son âme enthousiaste, ivre d'inspiration, reculerait d'horreur devant ma façon de travailler. Il est le poète lyrique, dans tout son admirable épanchement. Toutefois, plus j'irai, plus je serai fidèle à ces sévères idées que m'a léguées mon grand maître Edgar Poe. Ailleurs, alors mais écrit, je sentais que l'on n'a pas le droit de mésuser ainsi la forme écrite et je commençais à étudier ce qu'elle exige. Nous sommes sans doute nombreux à avoir admiré l'exigence extrême de Mallarmé et son projet du livre à venir, mais force est de constater que nous ne pouvons pas souscrire en même temps à la recherche de la perfection mallarméenne et à l'acceptation modeste de la joie d'errer d'Apollinaire, voire à la position de Desnos, pensant la création poétique comme une naissance naturelle, aléatoire, de nouvelles constellations dans la bouteille nocturne. Il faudra choisir. La position de Mallarmé, si intransigeante, austère et apparemment si novatrice, ressemble en réalité trop à une certaine idéologie grecque de la création artistique pour être retenue comme vraiment novatrice. Révolutionnaire, elle l'est seulement au sens étymologique du mot. Elle est plutôt grecque. Car qu'apprenons-nous au chapitre 4 du traité sur le hasard de Plutarque? Car les arts ont travail, autrement dit Athéna, et non pas hasard, comme leur parèdre. D'un seul peintre, pourtant, on raconte qu'en peignant un cheval, il avait réussi à presque tous les égards le dessin et la couleur. En revanche, la profusion d'écume autour du morse et l'exhalation violente d'écume, il avait essayé de les peindre une fois après l'autre, mais avait effacé chaque fois le résultat jusqu'à ce que finalement, dans un accès de rage, il jeta son éponge telle qu'elle, pleine de pigments, sur le tableau et l'éponge, en le touchant, imprima son contenu de manière merveilleuse sur le tableau en obtenant le résultat voulu. Voilà ce qui est la seule occasion connue d'un accomplissement technique dû au hasard. En d'autres termes, les arts progressent grâce à l'effort technique des artistes, travail qui se trouve aux antipodes même du hasard. L'art apparaît ainsi pour Plutarque comme le combat entre le hasard, dont l'intervention novatrice dans l'histoire de la peinture se réduirait à une seule occasion. L'anecdote par lui citée concerne le peintre Appel et elle nous est connue par d'autres sources également. Elle ne fait pourtant pas consensus chez les Grecs. Car le poète Agathon, cité par Aristote, affirme au contraire « l'art aime le hasard et le hasard aime l'art ». De même, pour une sensibilité moderne, contemporaine, trempée à la peinture de Jackson Pollock et à l'art informel, la position de Plutarque, établissant une opposition absolue entre hasard et art et refusant au hasard un quelconque rôle dans l'histoire de la peinture, dont le progrès serait dû au seul perfectionnement technique, n'est sans doute plus admissible. Il devrait en être de même, dirais-je, pour la position de Mallarmé. Essayons d'y voir un peu plus clair. Il est bien connu que Francis Ponge s'inscrit dans une tradition mallarméenne. Je peux citer note d'un poème sur Mallarmé dans Proème et la note dans le volume 1, Ponge en Pléiade, page 972. bien que Ponge apporte des nuances à sa position, lorsqu'il se dit préférer les poèmes en prose de Mallarmé à ce qu'il appelle ses bibelots. Et on aura l'exemple de bibelots tout à l'heure. Il est surtout un poète que le projet de Mallarmé n'a pas réussi à paralyser. Et je voudrais donc clore cette première séance par la lecture de deux poèmes tirés du Parti pris des choses de Francis Ponge. Le pain de Francis Ponge nous place devant une allégorie de la création poétique, mettant en scène le poète boulanger en attente devant son four stellaire, où la pâte amorphe semble se façonner en pain sans l'intervention de l'artisan boulanger. Et je vous renvoie tout de suite au passage du premier livre de la métaphysique d'Aristote, où Aristote critique l'idée d'un auto-façonnement du bois en table. Il semble d'ailleurs curieusement difficile, devant la figure du pain propre à ce poème, le pain de Ponge, de faire l'économie de la création au sens théologique. Un chapitre, pendant longtemps inconnu, du voyage de Nils Holgersson de Selma Lagerlöf s'intitule « Quand notre Seigneur faisait du pain ». Et ce chapitre varie la métaphore et parle de la création géologique de la Scandinavie comme l'œuvre d'un dieu boulanger, activement, lui, engagé dans le façonnement de la pâte. Si on avait eu le temps, on aurait pu se lancer dans une consultation parallèle et contrastive de ces deux textes. Plus important, Pierre Macheret, dans un livre paru en 1966 pour une théorie de la production littéraire, traduit récemment en américain et qui connaît ainsi une deuxième jeunesse, procède notamment à une critique du terme de création, terme qu'il a supprimé et remplacé systématiquement dans son livre par celui de production. Ce toilettage terminologique ne saurait pourtant remplacer une véritable reformulation du problème, auquel je reviendrai dans ma troisième conférence, où il sera question de poèmes écrits sur commande contre rémunération dans l'Antiquité grecque aussi bien que dans l'Italie des années 1970. Il est vrai que le terme « création » garde une connotation théologique qui ne gênerait pas un romancier comme Moyenne, le lauréat Nobel, se dit « régner en roi tout-puissant sur son royaume romanesque de roman ». Et je vous renvoie au petit texte « Cher William Faulkner » pour ce thème. Une telle façon de voir ne convient guère à la poésie moderne, je pense. Ainsi qu'on va le voir maintenant, le poète qui écrit « Le pain » ne joue pas le rôle de créateur, mais se met plutôt à observer la création du pain poème. Voici le pain de Francis Ponge. La surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne, comme si l'on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la cordillère des Andes. Ainsi donc, une masse amorphe en train d'éructer fut glissée pour nous dans le four stellaire, où, durcissant, elle s'est façonnée en vallées, crêtes, ondulations, crevasses. Et tous ces plans, dès lors si nettement articulés, ces dalles minces où la lumière avec application couche ses feux, sans un regard pour la mollesse ignoble sous-jacente. Ce lâche et froid sous-sol, que l'on nomme la mie, a son tissu pareil à celui des éponges. Feuilles ou fleurs y sont comme des sœurs siamoises, soudées par tous les coudes à la fois. Lorsque le pin rassit, ses fleurs fanent et se rétrécissent. Elles se détachent alors les unes des autres et la masse en devient friable. Mais brisons-la, car le pain doit être dans notre bouche moins objet de respect que de consommation. Écoutons maintenant un boulanger algérois, Salah Touati, parlant en 1972, après avoir lu le poème de Ponge. Tu vois, le boulanger qui travaille, mais il pense, il travaille. Le temps qu'il met le pain dans le four, il ferme la porte. Ce temps-là, il est en train de penser comment son pain va sortir. Alors, quand on sort le pain du four, quand il est bien cuit, la croûte, la coupe s'est développée, il a fait la pièce. Eh bien, le boulanger, il a une jolie joie folle. Mais quand le pain, il a souffert toute la nuit et il travaille, et quand on sort le pain du four, le pain n'est pas bien. Et alors là, il est triste complètement. D'une certaine manière, le boulanger semble plus attentif à la contingence que notre poète. L'attente inquiète devant le four, il la connaît bien. Et autant qu'Aristote, dans la Métaphysique, le premier livre de la Métaphysique, passage déjà évoqué, notre boulanger et ses collègues refusent l'idée que la pâte se façonne elle-même en pain. Et je cite, « Bohand Abdoun. Je vois qu'après lui, ce pain-là prend sa façon dans le four, non ?» Une fois, « Oui. » Bohand Abdoun. « Mais non, cette façon, on lui donne la façon. » C'est ça, on lui donne la façon avant d'entrer dans le four. D'abord, le pain, avant d'entrer au four, il faut que ce pain reste dans le fournil-là. Reste dans le fournil, il se gonfle. Alors donc, il prend comme nous, dans l'air naturel, ce volume-là. Il prend son volume, il gonfle avec la levure de bière, jusqu'à ce que le boulanger voit que son pain est bien prêt à être enfourné et le met dans le four. Mais il n'augmente pas de volume dans le four. Il prend la couleur dans le four, la couleur, il se cuit et prend sa couleur. Donc, il ne prend pas de façon dans le four. J'ai jamais vu un pain qui a pris sa façon dans le four. » Fin de la citation. L'absence d'inquiétude devant le four et la conviction que le pain, allégorie du poème, en train de s'écrire, se façonnera tout seul, sans l'intervention de son artisan, ce sont en réalité, chez Ponge, les deux aspects d'une seule et même façon de voir la création poétique, celle que nous avons déjà rencontrée chez Apollinaire et Desnos. Vous vous demandez sans doute d'où sortent ces boulangers algérois, lecteurs du pain, de Francis Ponge. Et j'ouvre donc ici une parenthèse pour présenter les circonstances de cette lecture. Au début de 1972, je me suis trouvé dans une boulangerie-pâtisserie, 36 rue Bab El Oued à Alger. J'avais en tête le passage dans l'Apologie de Socrate, où Socrate raconte qu'il a fait le tour des artisans d'Athènes pour les interroger sur leur savoir. Et je me suis dit que l'occasion de refaire l'expérience était en quelque sorte venue. À la bibliothèque de l'Université d'Alger, j'ai emprunté le parti pris des choses, dont j'ai copié à la main le pain, que, par la suite, j'ai fait lire par mes amis boulangers dans le but de les interroger après leur lecture. Le magnétophone tournait. Rentré en Suède, j'ai transcrit notre conversation qui m'a fourni le point de départ d'un article publié dans une revue littéraire. Aujourd'hui, je pense que le dactylogramme brut, endormi depuis longtemps dans le disque dur de mon ordinateur, est bien plus intéressant que mon article. Cette expérience pratique m'a en tout cas beaucoup appris. Plus précisément, il m'a instruit sur l'attente inquiète du boulanger devant le four dans sa solitude nocturne, où le pain peut réussir ou rater. La contingence. Plus récemment, il m'a fait reconnaître l'importance de la remarque d'un l'un de, des boulangers sur l'autofaçonnement impossible du pain. Remarque que j'ai pendant longtemps refoulée, mais qui est en parfaite consonance avec les réflexions d'Aristote dans la Métaphysique que je viens de citer. En effet, cette remarque m'a fait comprendre le rapport de Ponge à la création. Il en est le spectateur émerveillé plutôt que l'artisan inquiet. La distinction est décisive. Troisièmement, une observation de l'un des boulangers, Mohand Abdoun, mérite également d'être retenue, même si elle n'a pas de pertinence directe pour mes propos d'aujourd'hui. Je le cite. Oui, il a dit la couleur du pain, le ponge donc, la façon du pain dans ce poème, mais sa valeur n'est pas dite ici. Il lui a donné la valeur de le consommer, c'est tout, mais il y a encore une autre valeur parce que le boulanger lui donne une valeur. Ce n'est pas du goût de le manger, celle de la souffrance qu'il a de fabriquer ce pain. Pour notre boulanger, ce qui donne la valeur au pain, c'est donc la souffrance, la peine, évoquant pour moi les termes grecs « kamatos » et « ponos », quasi-équivalence, qui m'ont été fort utiles lorsque, dans la perspective des recherches de Vernon sur l'absence d'une notion de travail en Grèce ancienne, j'ai interrogé les façons de dire « travail » ou de ne pas pouvoir dire le travail en Grèce ancienne. Certaines de mes remarques au cours du colloque sur le travail, tenu ici même en 2004, sont tributaires des réflexions de Mohand Abdoun, voir mon article dans la revue Europe. Que Mohand Abdoun soit remercié aujourd'hui après, à 40 ans de distance. Mais fermons cette parenthèse et revenons à la contingence. Le pain de ponge, allégorie du poème que pour notre bonheur le poète est en train d'écrire, prend forme, se crée, dans le four, sans l'intervention de son artisan. Le poète se pose en observateur de cette création. Spectacula contemplabar, disait Rimbaud, anticipant la lettre du voyant. Le poème peint n'est pas une création d'artisan, mais une création naturelle dans le four stellaire. Si d'autre part, nous voulons avoir une idée plus précise de la création langagière, sinon poétique, chez Ponge, nous devons surtout lire le cycle des saisons. J'y viendrai dans quelques instants. De nouveau, la création poétique sera, pour Ponge, une création naturelle plutôt qu'artisanale, comme s'il fallait laisser à la langue, non pas au poète ou au locuteur, le souci de créer. Céder l'initiative aux mots, pour reprendre la formule de Mallarmé dans « Crise de vers ». Valérie frôle cette idée, me semble-t-il, en notant ceci à propos précisément de Mallarmé. Un poème comme « Hérodiade » est fait à partir des mots et des conditions imposées par les rimes, les contrastes des mots. Sonorité, surprise, les idées se cherchent dans cet ordre. Contraire merveilleux de l'éloquence, le mouvement du discours trouvé à part dans les veines de la riche texture, parmi cette accumulation. Artificielle pour remonter le sens de la génération ordinaire des paroles. Naturelle pour observer profondément les lois de leur addition et de leur édification. L'écriture de Mallarmé serait ainsi, selon Valéry, soumise au hasard que lui tient en réserve la langue. Je vous donnerai un exemple, suffisamment simple et concis, qui ne provient pas d'Hérodiade, mais des poésies de Mallarmé. Et je vais lire le poème, le bibelot feuillet d'album. Tout à coup et comme par jeu, mademoiselle qui voulut ouïr se révéler un peu le bois de mes diverses flûtes, il me semble que cet essai tenté devant un paysage a du bon quand je le cessais pour vous regarder au visage. Oui, ce vain souffle que j'exclus jusqu'à la dernière limite, selon mes quelques doigts perclus, manque de moyens si limite, votre trait naturel est clair. Rire d'enfant qui charme l'air. Envisagé du point de vue du traducteur, un poème comme celui-ci tend à dévoiler assez concrètement, pour ne pas dire brutalement, le principe de sa génération. Si je ne me trompe, le désir d'utiliser le rime « volute »,« flûte » est à l'origine des propos tenus dans ce poème et surtout à l'origine de son énonciation. Volute faisant surgir la destinataire de la musique du flûtiste, etc. Ce n'est pas que le poète, dans un exercice d'éloquence adressé à la jeune destinataire du poème, impose ses rimes et ses figures au sujet prédéfini, mais le sujet surgit en quelque sorte de la sédimentation langagière, où il faut considérer le rime volute, flûte, comme un beau hasard de la nature repéré par le poète, qui le mettra à son plus grand profit, en flûtiste potentiel. Je vous rappelle que cette perspective générative a été celle de Scheid et de moi-même dans de nombreuses analyses de mythes grecs et romains. Mais laissons là Mallarmé, compagnon de route, si je peux me permettre, plutôt qu'adversaire, et lisons pour conclure le passage du cycle des saisons de Francis Ponge. Là, de s'être contracté tout l'hiver, les arbres tout à coup se flattent d'être dupes. Ils ne peuvent plus y tenir. Ils lâchent leurs paroles, un flot, un vomissement de vers. Il tâche d'aboutir à une feuillaison complète de paroles. Tant pis, cela s'ordonnera comme cela pourra. Mais en réalité, cela s'ordonne. Nous avons commencé par le point quelconque choisi pour la mise en ordre d'un ensemble de thèmes par la muse. Nous voici au point d'arrivée provisoire, devant un poème qui affirme sa foi joyeuse dans l'auto-ordonnance de l'écriture poétique, dont l'éclosion semble aussi naturelle que celle des feuilles printanières sur les arbres. Au poète, depuis la lettre du voyant, d'observer cette éclosion, qui n'est autre que celle de sa propre langue, occupant désormais la place laissée en creux par la muse des poètes grecs. Je vous remercie.